Radio Galère pour cette émission d'actualité internationale du Comme à Guerre avec toute l'équipe au complet que je salue. Bonjour Roselyne. Elle est au bout de... Elle y est presque.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour Habib.
Bonjour, bonjour Bernard. Voilà. Bonjour les auditeurs.
Voilà, nous sommes là. Nous sommes là face à une actualité internationale extrêmement proliférante et qui mérite beaucoup de commentaires. En particulier, j'insisterai sur les commentaires sur la façon dont le gouvernement de la République française essaye de nous entraîner dans une aventure extrêmement inquiétante et trompeuse au moment où on parlera de la situation en Ukraine et des derniers contacts. Je ne sais pas. On peut d'ailleurs peut-être, si on peut commencer par là. On peut commencer par là, en ce sens, qui s'est tenu en fin de semaine dernière à Paris, ce qui était annoncé comme un sommet de l'Union européenne, y compris le Royaume-Uni, donc un sommet des Européens pour parler de l'Ukraine, mais il y a eu une présence qui n'était pas tout à fait annoncée au début, mais très importante, d'une délégation envoyée par Donald Trump. C'est ça qui donne le sens à cette rencontre. Oui. Parce que cette délégation était importante, puisqu'il y avait donc Marco Rubio, donc le secrétaire d'État, à sa tête. Il y avait ensuite deux personnages, l'un dont on parle beaucoup moins, qui s'appelle M. Kellogg, qui a été le premier envoyé spécial des États-Unis sur l'Ukraine. Et puis le dernier envoyé spécial, qui était M. Witkoff, le milliardaire. Comme tous les envoyés spéciaux de Donald Trump, il faut tous être milliardaires. Il n'y a pas besoin d'être... Je ne sais pas, je dis pas que M. Witkoff est un sot, mais au moins il faut deux choses, ne pas être bête et en plus être milliardaire. Voilà, comme ça on fait de la diplomatie aux États-Unis. Autrement, si vous avez juste les qualités intellectuelles, ça ne suffit pas. C'est un critère, mais c'est un des deux critères. Le deuxième critère, soyez milliardaire parce que vous parlez la langue du patron. C'est ça qui est important. Parler la langue du patron. C'est-à-dire, avec un clin d'œil, on se dit, là il y a des trucs à gagner, on y va et on va préparer un coup. Bon, ça c'est le rôle de M. Witkoff. Donc, ces trois représentants de très très haut niveau donc, de l'administration américaine étaient donc à Paris. Pour faire comprendre à l'Union européenne, premier point, et ça a été le point essentiel sur lequel je vais m'arrêter parce que c'est le point le plus trompeur. Les États-Unis ont décidé de ne plus s'intéresser à l'Ukraine. Mettez-vous bien ça dans la tête. Alors, raison non avouée, plutôt que d'assumer une défaite sur le terrain qui est en cours, bon, on préfère dire, ben, nous on s'en va, on est parti, et puis après on verra bien ce qui se passe. Bon. Deuxièmement, la partie est très très difficile militairement, elle est même quasiment perdue, puisque beaucoup de commentateurs et militaires américains considèrent que la partie militairement est perdue. Mais ça c'est le point de vue, disons, cynique. Ils le disent pas, mais c'est pour ça qu'ils veulent plus grandir. Et puis, alors, l'argument mis en avant qui est le plus fort, on dit Donald Trump a suffisamment à faire avec la Chine. Effectivement, là, j'accepte tout à fait le propos parce que ça va être un os très très dur à ronger. Hein, c'est très très compliqué de sortir de la problématique chinoise. Si, la problématique chinoise, c'est qu'effectivement, ce pays qui est la première puissance industrielle du monde, clairement, qui sait aujourd'hui à peu près tout faire, y compris qui fait des choses que personne d'autre ne fait. Donc ouais. Ils ont même de l'avance technologique sur toute une série de secteurs. Alors je ne l'invente pas, il y a des tableaux comparatifs qui ont été faits entre les niveaux d'avancement de la recherche technologique avancée. En fait, la Chine est en tête sur la très grande majorité des techniques possibles. Viennent derrière, non pas les États-Unis, mais les seconds couteaux des États-Unis, je veux parler du Japon et de la Corée du Sud, qui sont pas mauvais. L'Allemagne, sur certains secteurs liés aux machines-outils, etc. La France, hélas, j'ai pas trop d'occasion d'en être fier. Et donc, effectivement, ce constat, il est fait. Et dans la mesure où, dans les bureaux de la Maison-Blanche, il n'y a pas que des imbéciles, ils savent très très bien que, sur ce terrain-là, la Chine est très en avance. Donc il faut inventer des motifs, compliquer la vie et tout. Alors ça va être très très difficile, puisque en fait, le premier contact qui a eu lieu avec le nouvel envoyé spécial, alors donc Trump a nommé un autre milliardaire, parce qu'il y en a tout autour de lui, je ne sais pas, tous les matins d'avoir une assemblée de milliardaires dans le bureau ovale, il a envoyé un monsieur dont le nom est chinois d'origine, mais qui est états-unien de citoyenneté, et qui est le président de Nvidia. Alors Nvidia, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose si vous n'êtes pas un peu branché dans le secteur informatique, c'est le fabricant, le premier fabricant mondial en volume et en niveau de qualité des puces électroniques, de tout ce qu'on met dans tous nos appareils, dont on fait ordinateur, etc., téléphone portable. Bon. Ce monsieur est donc états-unien, d'origine chinoise, avec un nom chinois tout à fait. Et il arrive à l'aéroport de Pékin, je vous raconte ça, parce que c'est trop beau. Il arrive à l'aéroport de Pékin, évidemment, tous les reporters sont là. Pourquoi vous venez ? Ah ben, je suis l'envoyé spécial du président Trump. Et vous venez en Chine, pourquoi ? Ben, je vous signale que mes usines sont là depuis 30 ans. Ah bon, ah vous connaissez la Chine ? Oui, et il ajoute, j'en suis même très très content parce que vous savez que la main-d'œuvre chinoise est extraordinairement compétente. Ah, bon, mauvais message pour Trump. Et puis, on lui dit, mais maintenant, ça va s'arrêter, vous êtes fâché. Ah non, non, pas du tout. Je suis là depuis 30 ans et je compte bien y rester aussi longtemps, voire plus. Bon, donc, la rupture technologique entre les États-Unis et la Chine n'aura pas lieu au moins de ce chevet-là et sur ce terrain-là qui était un des plus sensibles, puisqu'on avait dit, dès l'instant où Nvidia priverait la Chine de toutes ses puces, la Chine retarderait sur le plan des ordinateurs, sur le plan des calculateurs, sur le plan toute une série de plans, y compris militaires. Bon, eh ben ça ne peut pas marcher puisque monsieur le patron de Nvidia dit « Je suis là, les ouvriers chinois et les ingénieurs chinois sont le meilleur niveau du monde. » Il le dit, il est citoyen des États-Unis. Je suis content d'y être depuis 30 ans, j'en ai fait le tour, je sais qu'ils sont toujours au top niveau, c'est-à-dire que la formation est très très bonne, il y a le nombre de gens qu'il faut, ils sont compétents, etc. Et je compte bien rester, parce que, sous-entendu, là je parle en milliardaire, c'est là que je gagne mon argent. Alors effectivement, quand vous dites à un milliardaire, si tu vas à cet endroit-là, tu vas gagner beaucoup d'argent, ben, c'est pas ce qui va l'amener à s'en aller. Bon. Et donc, les relations, alors ça on en parle moins, mais les relations entre les États-Unis, Trump et la présidence chinoise vont plutôt se situer sur ce genre de terrain, c'est-à-dire on n'en fera pas trop état, parce que c'est pas très brillant ce que je vous raconte. En fait, ça a été vu tout le monde, l'entretien télévisé à la descente de l'avion, mais autrement, on n'a que de la propagande, la Chine, ses vices, etc., ses camps de concentration où il n'y en a pas, c'est si, c'est ça, et tout. Bon, on n'a pas grand-chose à raconter. Et dès l'instant où on rentre dans un sujet concret concernant une technique, une industrie, une capacité de formation, on tombe sur un pays. Alors, quel avantage il a ? Eh bien, c'est que c'est un pays qui sait où il va. C'est-à-dire qu'il n'attend pas la prochaine élection cantonale ou municipale et tout pour savoir qui va gagner et là, si la politique va changer. Non, il planifie, il y a des plans en Chine, comme il y a eu en URSS à l'époque. Et puis on dit, voilà, la Chine, le pays, donc les 1,4 milliard d'habitants, pendant les 5 années qui viennent, ils vont se centrer principalement là-dessus. Il y a des priorités. Priorité en termes d'industrie. Et donc, quand il y a une priorité en termes d'industrie, il faut qu'il y ait une priorité en termes d'ingénieurs, de bureaux d'études, de formation ouvrière, des contremaîtres, etc. Et on met tout ça en place. Et à partir de 5 ans, effectivement, on a une industrie qui marche avec l'investissement en savoir, l'investissement en personnel, et donc les objectifs peuvent être atteints. C'est comme ça que ça marche. Alors, on dirait que je fais l'apologie de la planification, mais je le fais d'autant plus que nous avons affaire en Europe et aux États-Unis à des gouvernements qui gouvernent le nez sur la vitre à 15 jours au sondage de popularité et tout, et donc on ne peut pas avancer, on ne peut pas avancer. Et tout d'un coup, on dit, ah, on devrait faire ça. Alors, je ris, dis, on va refaire une industrie de l'armement en Europe. Ah ben, pourquoi pas ? On peut discuter de l'opportunité de le faire. Mais faire une industrie de l'armement en Europe, ça veut dire faire un plan de 5 ou 10 ans pour, au bout de 10 ans, avoir le matériel le plus pointu de la planète sur tel et tel produit militaire. Bon, c'est ça. Autrement, c'est du bavardage. On peut dire, effectivement, on va doubler les horaires chez les Charles Leclerc. C'est à Rouen, je crois, dans ces coins-là. Bon, voilà, on en produira deux fois plus. Mais c'est tout. Et c'est pas le meilleur des chars possibles aujourd'hui. On fait beaucoup mieux. Bon, donc ça, c'est une réflexion que je livre à tous les citoyens français électeurs en disant ne croyez pas ce qu'on vous raconte, qu'on va dire on va faire une industrie. Une industrie, ça se fabrique pas comme ça parce que un monsieur un jour devant un micro ou devant une caméra de télévision a dit « J'ai décidé de faire une industrie d'armement ». Oui, cause toujours. Donc je reviens à cette réunion qui était très très importante, puisqu'on sent que la délégation des États-Unis est venue dire aux Européens, nous l'Ukraine, c'est votre truc, on s'en occupe plus, nous le président est passionné par la question de la Chine, c'est là le véritable adversaire stratégique, et il ne va pas perdre de temps sur les affaires ukrainiennes. Hein, sous-entendu, on vous laisse le bébé, merci, merci les Américains. Bon. Et alors, c'était un peu ça que les 20 ans de guerre qui nous gouvernent, donc Macron, Starmer et quelques autres, pas tous les Européens d'ailleurs, je précise bien, mais Merz, le nouveau chancelier allemand, n'attendait que ça. Qu'on leur dise, si vous voulez y aller, allez-y. Mais, sous-entendu, et là je parle le Trump comme si j'en faisais partie, comme si je parlais le Trump de naissance, c'est vous qui payez. Vous y allez, mais vous payez. Moi, je ne mets rien dans la mécanique. Moi, je m'occupe du Pacifique, hein, que ce soit bien clair. Bon, alors c'est vous qui allez payer. Alors, et ces messieurs ne disent pas non, disent finalement, alors on nous annonce, et je crois que ça a été l'objet, je ne l'ai pas suivi en détail, d'un discours de politique générale que François Bayrou a fait la semaine dernière à l'Assemblée nationale, où il a dit, les sacrifices sont devant nous. Alors pas lui, bien sûr, il ne va pas être mis en croix, François Bayrou. c'est un peu la saison, mais il a raté. Bon, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Pas l'année prochaine. Et donc, les sacrifices, c'est pour nous. Les sacrifices sont annoncés. Parce qu'on ne peut pas à la fois mettre beaucoup d'argent dans la défense nationale, acheter même peut-être, sous-entendu, du matériel américain performant, parce qu'on n'en a pas... Enfin, il y a toute une série de produits sur lesquels la France... On pourra effectivement livrer des rafales, quelques chars, quelques canons César, puis il y a des tas de choses qu'on ne sait pas faire. Hein. Bon. Et donc, il faudra acheter du matériel aux États-Unis, là où il se fabrique. Bon. Et donc, il faudra trouver l'argent. Et donc cet argent, on le trouvera chez les contribuables français. Et ce qui m'inquiète et sur quoi je voulais m'arrêter, c'est que l'opposition, les partis politiques, et même y compris ce qu'on appellerait une opposition de gauche, si tant est que ça ait encore un sens, est plutôt en train de dire « Ah mon Dieu, le pays a une tâche, c'est-à-dire d'aller régler la question ukrainienne, puisqu'on lui a dit de le faire, et qu'il n'y a que lui qui va le faire ». Et donc, il y a des réunions qui sont prévues de mobilisation des énergies françaises pour la guerre en Ukraine, y compris des énergies syndicales. J'insiste beaucoup là-dessus. Y compris la CGT accepte des discussions sur le fait de mobiliser la main-d'œuvre française pour aller faire la guerre en Ukraine. Bon, ça c'est extrêmement grave, Hein. Alors, la gauche, ben évidemment, alors la gauche, je ne parle pas du Parti Socialiste, mais, ah, ce propos du Parti Socialiste, alors, si, quand même, je ne veux pas laisser passer, Il est sorti ces jours-ci des dépêches Wikileaks qui ont une dizaine d'années, ou peut-être un peu plus, sur les relations entre les dirigeants du Parti Socialiste et l'ambassade des États-Unis à Paris. Alors, elles y étaient dans les dépêches Wikileaks, là, il y en a des millions, il suffit de les exploiter. Personne ne l'avait fait jusqu'à présent. Et il y a un journaliste qui l'a fait, qui est allé chercher ses dépêches d'origine, telles qu'elles sont, et puis il a fait la liste des rendez-vous pris par les dirigeants socialistes de l'époque avec l'ambassadeur des États-Unis, en particulier au moment de la guerre d'Irak. C'est très très intéressant à rappeler. C'est-à-dire qu'au moment de la guerre d'Irak, vous vous souvenez que quand Bush annonce qu'il va attaquer l'Irak, pour des raisons qui sont des mensonges, ça on le sait, Jacques Chirac et Dominique de Villepin disent « Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous nous en mettez ?» Et puis c'est pas lui le responsable, c'est pas lui... Les attentats du 11 septembre, c'est pas Saddam Hussein, c'est pas l'Irak et tout. Bon. Alors, ça, ce discours déplaît beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et c'est là que les dépêches Wikileaks sont passionnantes. C'est que la totalité des dirigeants socialistes, je parlais de Ségolène Royal, de François Hollande, de Védrine, le ministre des Affaires étrangères, de Michel Rocard, tout le monde se rue à l'ambassade des États-Unis à Paris pour dire « Non, non, on n'est pas fâchés, vous inquiétez pas, la France est toujours avec vous ». Pendant que le gouvernement de la France et son premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, sont en train de dire « Dans quelle aventure vous nous envoyez ?» C'était une vraie... Donc, quand on est arrivé... Alors, tant pis, on a peut-être des auditeurs qui, à l'occasion, votent socialiste. Ben, tant pis, je leur dis « Attention, attention, vous avez des gens pour qui la priorité, c'est de ne pas fâcher les États-Unis. » Alors, appelez ça une position de gauche. je veux bien, mais je veux pas bien en fait. je veux pas bien parce que c'est pas vrai, c'est pas une position de gauche. Parce que suivre les États-Unis à approuver leur politique, c'est approuver le massacre d'Irak, c'est approuver les financements de Netanyahou, c'est approuver tout ça, c'est approuver le bombardement du Yémen maintenant, c'est ça que ça veut dire. Donc, moi, j'ai toujours. Enfin, ça rend très très difficile le fait de dire je suis de gauche et je suis d'accord avec le Parti Socialiste. Non, pas, on ne peut pas être d'accord avec le Parti Socialiste qui a fait ça.
Le Parti Socialiste avait des dirigeants, presque moi j'appelle ça l'extrême droite. Hollande.
Tout à fait. Alors, quand vous pensez que. Alors, ce qu'on annonce maintenant, c'est que la tête du Parti Socialiste, ça ne serait plus M. Faure, Olivier, mais ça deviendrait M. Raphaël Glucksmann. Alors là, vous avez les cheveux qui se dressent sur la tête en disant, attendez, au moins, non, si en fait ça confirme, ça veut dire, on met un monsieur qui a été formé et qui est probablement un agent américain à la tête du Parti Socialiste. Donc au moins les choses sont claires, on a le Parti des États-Unis qui est un des partis français, bon, il a un certain nombre de députés, de maires, etc. Et voilà, on sait où ils prennent leurs ordres, ils sont fidèles, alignés sur les États-Unis. Alors, ça a pu avoir un sens, mais ça n'en a plus. Si, ils sont alignés sur M. Trump, et M. Trump a dit, donc, l'Ukraine, je vous la laisse, débrouillez-vous, ça vous coûtera ce que ça vous coûtera, mais moi, je ne paye plus. Hein. Eh bien, on est en train d'avoir des dirigeants qui sont en train d'aller sur ce chemin-là. Alors, que M. Bayrou y aille et que M. Macron y aille, on le sait, mais attention, qu'est-ce qui reste dans la gauche pour ne pas y aller ? Ben pas grand monde, parce que la France insoumise est incertaine sur cette question-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un tout petit début de réaction, alors je ne l'amplifie pas parce qu'il est faible, qui vient un peu de Roussel, le dirigeant communiste. Un tout petit recul en disant, mais attendez, dans quoi on est en train de nous envoyer ? Bon. Mais, alors, c'est à l'échelle du Parti communiste tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire 3% des électeurs, voire peut-être un peu moins, c'est pas beaucoup. Il y a dans la CGT, je faisais allusion donc tout à l'heure à Sophie Binet, la secrétaire générale, donc qui sont un peu pour l'Union sacrée, on va se serrer les coudes parce que la France est menacée et puis on est abandonné par les États-Unis, voilà. Il y aura des réactions à l'intérieur de la CGT, tant mieux, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et si j'utilise le mot « union sacrée », c'est parce qu'il a une histoire, ce mot. Ce mot « union sacrée », il vient de 1914. Il faut savoir que la SFIO de l'époque, donc le Parti Socialiste de l'époque, qui est dirigé par Jaurès, est le parti anti-guerre. Jaurès a passé tout son temps, et affecte son éloquence extraordinaire, a passé tout son temps à mobiliser le peuple contre la guerre qu'allait faire l'Allemagne, on la voyait venir, etc. Et puis en fait, il se trouve que le jour même, vous savez que Jaurès est assassiné, et dès le lendemain, la quasi-totalité de l'appareil socialiste passe du côté de la guerre. On met un socialiste à la tête du ministère des Finances, un autre à la tête du ministère de la Guerre, etc. Et donc l'Union sacrée, c'est ça. La gauche, ça n'existe plus. C'est mort aux Boches. Voilà. Et donc, ce mot a un sens, il a une histoire, et on est assez près de ça. Donc faisons attention, parce que dans ces cas-là, l'union sacrée, ça veut dire c'est l'union sacrée pour faire la guerre, ça veut dire c'est la prédominance et la priorité donnée aux opérations guerrières, et donc tant pis pour la condition ouvrière et la condition des populations, c'est passé, on n'en parle plus, l'affaire est claire. Et il faut savoir, je fais un petit rappel d'histoire, qu'il a fallu attendre 1916 pour qu'il y ait en Suisse une réunion des gens qui étaient très à gauche, en particulier des quelques communistes qui avaient réagi par rapport à cette union sacrée, pour essayer de redémarrer une action internationale contre la guerre. Donc c'est une vieille histoire, mais qu'on connaît maintenant. Donc il vaut mieux s'en prémunir pour sa non-reconduction.
Oui. Roselyne, sur quoi la France insoumise hésite ? Je ne comprends pas pourquoi.
Ben parce qu'en fait, ils considèrent que la Russie est dangereuse.
Ouais. Voilà. C'est ça. C'est ça qu'on doute de.
C'est clair. Oui, non. Hein, ils sont pas à crier bêtement Poutine dictateur. Mais enfin, ils sont plutôt. Alors, on revient toujours à ce problème qui est un problème de droit international. C'est qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine ? Alors, il y a deux aspects dans la charte de l'ONU. Le premier aspect, c'est le respect des frontières. Ça en fait partie, évidemment. Et le deuxième aspect, c'est le droit des peuples à l'autodétermination. Et il y a des moments où il y a contradiction entre les deux.
Et l'accord qu'il y a eu avec Hollande est...
Voilà, bien sûr.
Qui a été complètement...
Exactement. Alors, cette contradiction, mais il faut la régler, elle n'a pas été réglée. C'est-à-dire que les Russes l'ont vu venir, les Russes ont dit, eh ben, pour régler cette contradiction, c'est vous, monsieur les dirigeants de Kiev après le coup d'État, qui avaient décidé que la langue russe était interdite aux populations russophones. C'est vous qui leur avez dit « je vous ferai aucun cadeau ». C'est vous donc qui avez commencé à faire qu'il y ait une séparation de la population de ce pays en deux, avec un camp qui écrase l'autre. Bon, la Russie aurait pu réagir tout de suite très très vigoureusement. Elle a essayé un peu de les protéger, au moins diplomatiquement, d'où les accords de Minsk, en disant « au moins essayons de trouver un statut où ces populations resteraient dans l'Ukraine ». J'insiste bien, c'était ça la position des accords de Minsk, et c'était ça la position que défendait Poutine à l'époque. Ils restent dans l'Ukraine à condition qu'on les respecte dans leur autonomie linguistique et tout, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et là, ils restaient ukrainiens.
Bien sûr.
En fait, ce qui s'est passé, on le sait, c'est qu'on leur a interdit de faire ça, et donc il a fallu qu'ils disent « on s'en va ». Mais ça a mis 4 ans.
Surtout, l'OTAN a voulu mettre sur les frontières ukrainiennes des bases américaines.
Exactement. Voilà. Et pendant les 4 ans de la comédie des accords de Minsk, donc de 2014 jusqu'à 2018, même 2022, 2018 au moins, il a été question de rien du tout, sauf à installer effectivement les bases militaires à la frontière des républiques du Donbass pour, à un moment donné, régler leurs comptes aux russophones. Sur la base, soit vous partez en Russie, soit vous mourrez. Bon. C'est ça l'histoire qu'on ne veut pas nous raconter, mais c'est la stricte vérité. Bon, donc ce qui se passe, je reviens toujours à la Réunion, c'est que les envoyés de Trump disent à l'Europe, allez-y, nous on s'en occupe plus, allez-y à vos frais. On ne sait même pas s'ils nous aideront pour le guidage des missiles, ni rien du tout, on verra bien. Bon. Et puis, le fait que les gouvernements européens trouvent ça très bien, d'où la position de Bayrou, ah, mais ça va imposer des sacrifices. Oui, oui, bien sûr.
40
oui.
milliards à récupérer.
Voilà.
Qui va payer ça?
Exact. Non, mais c'est ahurissant. Et il faut savoir que ça quand même suscite quelques réactions. Alors, j'ai retenu quand même une réaction assez intéressante, qui émane d'un certain nombre d'officiers généraux, à la retraite pour la plupart, ou ce qu'on appelle le deuxième secteur, hein, qui se sont réunis et qui ont fait ce qu'on appelle, je vous le lis, parce qu'on va considérer que, enfin c'est sans importance et que ça ne sera pas sur les grandes chaînes de télévision, ça s'appelle l'appel des armées françaises à la représentation nationale. Donc c'est un texte qui a été élaboré la semaine dernière, et ça sous-titre « Résolution citoyenne relative à l'engagement militaire et financier de la France en Ukraine, signifiée par huissier au président des deux assemblées », donc Assemblée nationale et Sénat. Et ça précise un certain nombre de choses, l'article 411.1 du Code de la Défense qui précise « L'armée de la République est au service de la nation ». Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armées la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation. Première question, hein, est-ce que c'est bon? Ensuite, il y a d'autres dispositions, et sur quoi ils insistent, c'est en particulier la Constitution française qui dit que toute opération militaire extérieure doit être soumise à l'approbation du Parlement.
Oui.
Et il dit là, rien. Il dit, constate, jusqu'à ce présent, il ne s'est rien passé. On sait, on entend dire, alors ils font les innocents, parce qu'ils le savent, qu'il y a des soldats français en Ukraine, qu'est-ce qu'ils font? Qu'on est en train de préparer une grande base militaire française sous chapeau de l'OTAN en Roumanie, etc. Mais il n'y a rien d'officiel, et ils demandent simplement à ce que la Constitution, la loi sur la défense et la Constitution soient respectées, tout simplement. Bon. Alors, ce texte est relayé par des gens de droite, je le dis. Je n'ai pas honte de le dire, parce qu'après tout, si il faut attendre, et ça me fait un peu de peine, qu'il n'y a que des gens de droite qui disent que la Constitution doit être respectée, je me dis, on est dans un monde un peu étrange pour que les gens de gauche disent que la Constitution, on n'en fait rien, les États-Unis doivent faire n'importe quoi, on le fait, aller tuer des gens en Ukraine ou des Russes, on le fait, on perd un peu la tête. On perd un peu la tête, ça renvoie à ce que je disais sur le PS, puisque dans la gauche, il y a toujours ce noyau qui est pro-américain. Les Américains disent, allez vous faire casser la figure là-bas, en Ukraine, pour nous, allez dépenser votre argent, etc. C'est bien, c'est le rôle qu'on vous a assigné. Voyez le niveau, en plus, regardez le niveau de mépris dans lequel vous êtes tenu par la Maison-Blanche. C'est-à-dire, on vous dit, allez, toi, petit soldat, hein, mercenaire américain, parce que tu es finalement qu'un mercenaire, tu fais la politique des États-Unis à tes frais, hein, et sans qu'il lui en coûte rien. Tu es un mercenaire, tu es un laquais. Bon. Alors ça, ils n'aiment pas qu'on leur dise, mais il faudrait que nous nous en rendions compte. Nos gouvernants sont devenus des laquais. à nous de trouver, alors, qu'il y a dans la population française des gens de droite, de gauche et du centre qui se mettent à réfléchir à ça, je crois que c'est tout à fait salubre. Il ne faudrait pas que ça reste un argument de la droite. D'ailleurs, pas de l'extrême droite, parce que l'extrême droite sur cette question-là, je parle du Rassemblement national, est extraordinairement silencieuse. Silencieuse. Bon. Mais il peut y avoir, alors effectivement, vous allez trouver des groupes de droite comme Défendre la France et tout, qui trouvent ça bien. Mais moi, quelqu'un qui défend la Constitution de la République, je ne considère pas que c'est un ennemi politique. Je ne serais sûrement pas d'accord avec lui sur tout, mais ce n'est pas un ennemi politique, parce que si l'État de droit, enfin, s'il n'y a plus d'État de droit, si les textes, on peut s'asseoir dessus et on vit dans une société de sauvages. Hein. C'est la force qui prime et le droit n'existe plus. Bon, ça me coûte de dire ça. Enfin, j'aime pas trop, quoi, hein, pour être franc. Voilà, donc un petit propos liminaire sur ce qui nous attend, mais voilà. Qui est très, très inquiétant, parce que, il y a, je vous dis, dans l'opinion publique française, telle qu'on peut la lire dans les journaux, en regardant les télévisions, etc., il n'y a pas grand monde qui a compris qu'en fait, les États-Unis se servaient de nous. Alors, la position de ceux qui se laissent prendre, c'est de dire, oh, regardez, avec l'histoire des taxes, des droits de douane supplémentaires et tout, il faut que la France se défende, soutenons le président pour défendre le pays, l'économie. C'est pas ça le problème, puisqu'en fait le problème c'est que c'est les États-Unis qui nous ont confié cette tâche à nos frais, et en fait on leur rend le plus grand service possible, c'est-à-dire liquider, personne liquidera la Russie actuelle, hein, mais terminer la guerre d'Ukraine avec le temps qu'il faudra, parce qu'il y a un deuxième obstacle, c'est que ce qui reste de gouvernement à Kiev, c'est un peu Zelensky, mais de moins en moins, puisque quand il était invité à Paris à la réunion, là où il a pas parlé, on l'a interdit de parler, il était là. Je sais même pas s'il est rentré dans la salle ou s'il était dans le corridor. Bon, donc il y avait quelques Ukrainiens, il y avait le chef d'état-major qui était là et tout. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que aujourd'hui, le gouvernement ukrainien, c'est les nazis, c'est tout. Point, il ne reste que ça. C'est eux qui tiennent l'armée, et eux, ils sont pas du tout prêts à lâcher le morceau. Parce que pourquoi ils sont pas... D'abord, c'est leur idéologie, mais parce qu'ils savent que s'ils perdent, c'est le peloton d'exécution. C'est ça. Hein, c'est Nuremberg et c'est... Hein, termine. Oui, oui, donc ça, ils ont bien compris. Donc ils iront jusqu'au bout. Donc en fait, deuxième chose que je dis pour que les citoyens français se rendent bien compte qu'on va leur demander de gros sacrifices, c'est que la guerre va durer. Va durer. Parce qu'effectivement, il faudra éliminer, et ça fait exactement partie des objectifs que s'était fixé la Russie dès le mois de février 2022, c'était éliminer les nazis d'Ukraine. Parce que tant qu'ils sont au pouvoir, ils sont nuisibles. Hein. C'est tout à fait clair. Et de ce point de vue-là, les réactions, je n'ai pas parlé des réactions de la diplomatie russe, donc de Lavrov, de la porte-parole Maria Zakharova, mais ils sont tout à fait clairs en disant nous, on considère que l'objectif est atteint quand cet objectif-là, les causes profondes du conflit, c'est-à-dire l'hostilité foncière de tous ces néo-nazis par rapport à la Russie, sont éliminées. On n'y est pas. On n'y est pas. C'est un des autres motifs de mécontentement de la Maison-Blanche et de Donald Trump. Ben, j'avais dit qu'il fallait un cessez-le-feu et qu'on arrête la guerre dans 15 jours. Oui, mais Monsieur Trump, c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'économie internationale. Et c'est pas parce que vous dites dans 15 jours c'est fini que, miraculeusement, ça se finit. Alors je ris parce que la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, là, qui est comme d'habitude une blonde sculpturale... Il y a un modèle de porte-parole, c'est incroyable. Elles sont toutes le même brushing, la même coupe de cheveux. Bon, ça fait joli. Bon. Non, mais c'est vrai, c'est étonnant. Il y a une permanence de ce spectacle-là. Et elle a dit, en parlant de son président, c'est un mage, el mago del mag of the, c'est le mage du deal. Alors le deal, c'est un mot un peu argotique, enfin qui existe en anglais, mais c'est un mot. On fait des affaires, je t'arrange, tu m'arranges, on fait des compromis, je te cède un truc, je t'en cède un autre. Enfin, c'est du bricolage, c'est du bricolage. Bon, eh ben on a affaire au mage du deal, voilà, et c'est la porte-parole qui le dit. Alors effectivement, le mage du deal. Alors quand il circule avec cette aura-là, je suis le mage du deal, et que il dit dans 15 jours ça doit être fini, et que dans 15 jours c'est pas fini. Tout s'effondre. Hein. Alors, dans ces cas-là, et là, ça devient très amusant, et bien, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il parle d'autre chose. C'est tout. Il n'en parle plus. parce qu'il a dit il faut que la guerre soit finie, il voit que la guerre n'est pas finie, ben il fait la guerre aux Chinois. Ben non, hein. Bon, en attendant de la faire à quelqu'un d'autre. Bon, c'est, alors, j'allais dire, il ne faut pas. Alors, il y a des gens en France qui disent mon Dieu, Trump ceci, Trump cela et tout, mais prenez-le pour ce qu'il est. C'est le match du deal, c'est un négociateur et qui, en fait, l'expérience monte. Maintenant, on commence à avoir 3 mois d'expérience de la gestion à la Trump. C'est quand ça ne marche pas, il change de sujet.
Ou il dit ça,
ben j'ai dit ça parce que j'étais en colère. Ah bon, mais qui tu es? Tu es chef d'État avec là, une des plus grosses armées du monde. Dis donc, la colère, ça ne devrait pas présider à tes réflexions. Hein, c'est pas raisonnable.
C'est mais, la sagesse.
Voilà. Bon, alors, c'est pas, enfin, j'insiste là-dessus parce que c'est pas parce que j'ai le sourire en le disant, c'est parce qu'il faut que nous ayons tous le sourire, c'est-à-dire que Trump, c'est un faux épouvantail, c'est un épouvantail à oiseaux, c'est rien du tout. Simplement, c'est des paroles, c'est du marketing, c'est je bluffe, je te fais croire ceci, je te fais croire cela, tu vas voir ce qui va t'arriver, je vais me mettre en colère et tout. Enfin, c'est des discussions de cours de récréation, c'est pas plus que ça, le mage du deal. Hein. Bon. Donc raisonnons ça et faisons attention et disons quand on a l'occasion l'un de nous de rencontrer un élu, un député, voire croiser un ministre dans une prestation de guerre, disons mais attendez, vous êtes entre les mains d'un comique et il vous fait croire n'importe quoi, il vous fait faire n'importe quoi à mes frais. Hein, et là je marche pas. Hein, réfléchissez 2 minutes. Hein.
Les gens, ils sont aperçus, le peuple de France, ils sont aperçus que c'est un danger.
Mais bien sûr, mais
ils
bien
sont
sûr.
Aperçus, mais voilà. Tout le monde a compris. Voilà. Hein.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas une expression politique solide, raisonnée, calme par rapport à ça.
On change de sujet de jour.
Voilà, exactement, on change d'actualité. Voilà, ceci, bon, c'était une matière introductive. Donc, vous pouvez lire en ligne donc, l'appel donc, qui s'appelle l'appel des armées françaises à la représentation nationale. Alors, il y a déjà toute une série de généraux et d'amiraux qui ont signé. C'est ouvert à n'importe quel citoyen. Et je considère qu'il ne faut pas laisser les généraux tout seuls là-dessus. Il faut qu'il y ait des citoyens qui disent la même chose. C'est-à-dire qu'on s'assoit sur la Constitution, on fait faire à l'armée un rôle que, à lire la signature de ces gens-là, elle ne veut pas jouer. Où elle n'est pas prête à jouer. Et puis en plus, ils doivent se dire, ce qu'on sait de l'état de l'armée française, c'est qu'on ne va pas durer très très longtemps si on affronte l'armée russe dans l'état de développement où elle est aujourd'hui. Bon, ça, ils le disent pas dans le texte, mais je pense qu'ils en sont très très conscients. Voilà la situation de notre pays bien fatigué. Je voulais dire un mot, si on n'avait pas préparé, je voulais dire un mot quand même sur le pape François. Parce que après tout, il faut
c'est
le dire.
Il faut le dire
pour plusieurs raisons. D'ailleurs, c'était un pape, il était là depuis 1976, je crois. Il avait cette particularité d'être venu d'un pays qui n'était pas un pays européen. Ça faisait plus de 1000 ans qu'il n'y avait pas de pape, qu'il n'y avait que des papes européens.
Ouais.
Bah, voilà, d'une famille d'origine italienne, etc. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est qu'il a été un des rares personnages mondiaux publics à défendre la population de Gaza. Et il l'a fait.
Même jusqu'au dernier jour.
Et il l'a fait, exactement, puisque je sais que dimanche, il n'était plus en état de lire, mais le porte-parole qui a lu son message devant la place Saint-Pierre de Rome, devant la foule qui était assemblée, a réitéré son soutien et sa critique de l'action sioniste à Gaza.
Bon.
Après tout, il fallait le faire, il l'a fait.
Il l'a fait, Et puis il a toujours été du côté des pauvres.
Voilà,
c'est vrai.
De ce point-là. Il est allé rencontrer Fidel Castro, parce qu'il se faisait, voilà, etc. Toute une série de gestes.
Il était en Indonésie.
Oui, tout à fait.
Où la population était complètement
différente.
Au Moyen-Orient
tout
aussi.
Tout à fait. Donc après tout, moi je ne suis pas du tout... Je suis pas catholique reconnaître que le personnage tranché par rapport à beaucoup de ses prédécesseurs, hein, je rentre pas, enfin, on pourrait lire, je vous invite à relire Le Vatican, l'Europe et le Reich, le célèbre livre d'Annie Lacroix-Ri, mais de toute façon, il faisait un peu tâche. C'était pas un pape tout à fait comme les autres, hein. Bon, et c'est tant mieux. Ça n'enlève rien aux autres critiques qu'on peut faire à l'Église et tout. Mais là-dessus, je pense qu'on ne peut pas laisser passer le fait qu'il a été un des personnages mondiaux à dire ce qui se passe à Gaza est inadmissible.
Ouais, c'est vrai.
Et je suis content de pouvoir le redire.
Il a même dit il faut pas être antisémite aussi. Hein.
Oui, tout à fait. Oui. Oui, ne mélangeons pas l'action du gouvernement israélien et l'antisémitisme. Ouais. Non, on est parfaitement au clair là-dessus. Bon. C'est dit, il fallait que ce fût dit, et puis bon, j'ai apprécié, alors ça c'est la note d'humour, j'ai apprécié sa sortie, puisqu'il est mort le lendemain de la résurrection du Christ, et il a modestie de dire, ben voilà, donc il a modestie de dire, moi je suis un simple humain, moi je ne ressusciterai pas.
Voilà.
Donc modestie de la vraie condition humaine. Bien. Alors, dans les choses un peu plus politiques et plus immédiatement politiques, d'abord, il va y avoir une période assez lourde, puisqu'on a le 1er mai dans quelques jours, dans 48 heures, et puis la semaine d'après, on a la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui va se célébrer. Alors, on en reparlera, mais ça sera une très, très grande manifestation qui aura lieu donc le 9 sur la place Rouge à Moscou, puisqu'il y a un décalage horaire, c'est pour eux, c'est le 9, où il y aura donc une série d'invités. Et il y aura du beau monde, j'allais dire, puisqu'il y aura le président chinois, le premier ministre indien, Lula, le président du Brésil, il y aura le président de la Serbie, il y aura le premier ministre slovaque à qui l'Union européenne interdit d'aller à Moscou.
Ah bon ?
Ah oui, madame, parce que c'est pas vrai, c'est pas les Russes, ils ont rien fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Bon, ça on en reparlera. On en reparlera. Et puis je vais vous glisser dans une petite anecdote personnelle. Je me suis rendu à un endroit, donc sur ce qu'on appelle les plages du débarquement en Normandie, et j'étais à la recherche du commando Kiefer. Alors qu'est-ce que c'est que le commando Kiefer ? Eh bien, il se trouve que sur les plages du débarquement, donc organisées pour faire amérir plutôt l'armée des États-Unis, l'armée britannique, plus les Canadiens, plus les Néo-Zélandais, enfin l'armée, donc les armées anglo-saxonnes, il y a 177 Français qui ont débarqué le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie, dont personne ne parle. Évidemment. Alors, je suis allé à la recherche, et effectivement, en allant à l'office du tourisme, ici et là, en me posant des questions, dites-moi, est-ce qu'il y a des traces du commando Kiefer ? J'ai fini par trouver. Alors, qu'est-ce que c'est que le commando Kiefer ? Alors, c'est un monsieur qui, le 17 juin 1940, qui est un employé de banque, qui décide de partir en Angleterre avant l'appel du 18 juin. Il sait que c'est là qu'il faut aller. Bon. Il y va, et puis, une fois qu'il est en Angleterre, il faut gagner sa vie, il continue à être employé de banque. Mais au bout d'un certain temps, il me dit, je pourrais essayer quand même de faire quelque chose pour mon pays. Ouais. Et ça prend corps vers 42, à partir du moment du débarquement en Algérie. On sent que la guerre va basculer du côté des alliés. Et donc, il est prévu, et il voit De Gaulle, et De Gaulle demande à l'armée britannique de former autour de ce monsieur un commando, parachutiste, un commando de combat de Français qui sera utilisé pour le débarquement. Alors ce commando est formé à la dure, avec les méthodes anglaises, puisqu'il est formé par des Anglais à la méthode anglaise, puisqu'ils avaient eux aussi des commandos. Et ce commando de 177 citoyens français sera le seul commando, enfin sera la seule troupe française débarquant sur les plages de Normandie. Alors ça me paraît anecdotique. Pourquoi ce commando et personne d'autre ? D'une part parce qu'il était un peu dans le giron britannique, puisqu'il avait été formé en Angleterre, formé par des Britanniques, amené dans des bateaux britanniques sur la plage de Normandie, mais parce que les Américains, j'insiste là-dessus, c'est ça qui est ne voulaient pas qu'il y ait de troupes françaises qui débarquent en Normandie. Point. C'est tout. Parce qu'il ne fallait pas, parce qu'ils détestaient De Gaulle, et il était exclu qu'il y ait des troupes françaises. De Gaulle ne pouvait pas se féliciter de la participation des Français à la libération de son pays. C'était ça le but de la manœuvre. Et donc, les Américains avaient, dans leur grande largesse d'esprit, réservé le débarquement aux Français, le suivant, le deuxième, le moins important, le débarquement de Provence. Où était ton papa ?
Voilà, c'est ça. J'allais le dire, il y avait des anciens combattants syriens.
Voilà, là ils y étaient. Donc les troupes d'outre-mer, des Syriens et tout, comme ton papa Habib et tout.
Les Africains, les Nord-Africains. Voilà.
Mais il était exclu qu'il y ait des Français qui libèrent la France. C'était ça l'idée des Américains. Pourquoi d'une part parce que De Gaulle leur paraissait immaîtrisable, trop indépendant, et parce qu'ils avaient préparé, je le signale, mais j'insiste, ils avaient préparé l'installation d'un gouverneur américain à Paris, et ils avaient imprimé des billets de banque, des dollars européens, qui auraient eu cours forcé sur le territoire de la France. C'est-à-dire, il n'y avait plus de France, il n'y avait une colonie.
C'est pas nouveau, ça. Finalement, ça a été fait en Syrie actuellement.
Mais exactement. Ah ouais. Mais exactement. Et c'est pour ça que ce commando a réussi à glisser. Donc, il y avait 2 fois 77 pieds français, mais c'était tout. Et c'était une astuce, puisqu'ils sont arrivés au sein de l'armée britannique, sur un petit coin de plage à Ouistreham, mais c'est tout. On n'en a pas parlé. De Gaulle, lui, savait. Je finis mon histoire. De Gaulle, lui, savait, et je ne sais pas par quel miracle, il a réussi à être le 7 juin 1944 à Bayeux, qui est la petite ville la plus proche du lieu où avait débarqué ce commando. Et à Bayeux, il a fait un discours. Et à Bayeux, il a fait son premier discours. Il a fait un discours en disant ben, « Voilà la contribution de la France, des Français à la libération de leur patrie. » Sous-entendu, on a fait ce qu'on a pu avec de petits moyens, mais on était là. Et la première ville française libérée par une armée donc, qui avait débarqué, elle a été libérée par 177 Français. Enfin, 177 moins les 40 qui sont morts dans les batailles. Bon, ouais. Parce que c'était très très dur. Bon. Je voulais rappeler ça parce que c'est un petit fait, mais qui s'inscrit dans l'histoire plus grave. C'est-à-dire, il ne fallait pas que De Gaulle... Pour les Américains, il ne s'agissait pas que De Gaulle arrive au pouvoir. Ils ont essayé, du moment où ils étaient arrivés à Alger, donc à la fin 1942, d'écarter De Gaulle du pouvoir. Ils ont essayé Giraud contre lui. Ils ont essayé Darlan contre lui. Ils voulaient avoir des Français à leur botte qui acceptaient que la France devienne une colonie des États-Unis. C'est tout à fait important. De le rappeler. Ça n'a pas marché. Alors ça n'a pas marché, et puis en fait, De Gaulle a concrétisé sa position quand il est revenu au pouvoir à la suite de la guerre d'Algérie, ou pour les conséquences de la guerre d'Algérie. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de chasser l'état-major américain en Europe qui était installé en France. Ça prouvait bien que du côté américain, il y avait une permanence de vue. Il s'agissait de contrôler ce pays-là qui était le plus indiscipliné possible par rapport à la tutelle américaine. Ce n'était pas du tout le cas de l'Allemagne, ce n'était pas du tout le cas de la Belgique, ce n'était pas du tout le cas de l'Italie, etc. Et si aujourd'hui, nous n'avons pas de troupes américaines d'occupation sur le territoire de la République française, c'est la suite de ça. C'est pas le hasard, parce que, regardez, il y en a énormément en Italie, il y en a énormément en Allemagne, il y en a énormément en Belgique, il y en a énormément aux Pays-Bas, je compte même pas la Grande-Bretagne où il y en a toujours eu. Bon. Donc, la France reste un petit peu encore, c'est les résultats de cette histoire-là, un petit peu autonome par rapport aux États-Unis. Il ne faudrait pas, et je reviens à mon propos initial, il ne faudrait pas que nous retombions à la suite de l'affaire ukrainienne dans la pire suggestion possible par rapport à la politique des États-Unis, c'est-à-dire les États-Unis dire là c'est un conflit difficile, vous allez y laisser beaucoup de plumes, vous allez y laisser beaucoup de morts, ça va vous coûter très très cher, mais débrouillez-vous, nous on s'en occupe plus. Et donc ça, c'est une façon d'être soumis à la politique des États-Unis, parce que, alors, question de fond, quel intérêt a la France à s'attaquer à la Russie? Zéro. Zéro, hein, parce que qui peut croire, on l'a déjà dit, mais qui peut croire que la Russie va envahir la France? Mais enfin, réfléchissez 2 secondes, hein, qu'est-ce que ça veut dire pour un pays qui fait 35 fois la surface de la France et tout, envahir une France pour faire quoi? Pour nous prendre quoi? C'est pas les plages de Saint-Tropez et la Tour Eiffel, mais ça a tellement peu de sens qu'on se dit que qui peut croire ça et qui a même le culot de présenter ça à des téléspectateurs en disant voilà, ah, la Russie va nous attaquer. Zéro preuve et zéro bon sens. Zéro. Bon. Donc, à vous de réfléchir. À vous de réfléchir. Et on va passer à d'autres sujets qui ne vont pas nous éloigner. C'est un peu toujours la même chose. Mais ça, c'était important de voir ce qui s'était passé dans la question ukrainienne parce que c'est porteur de grandes conséquences très, très mauvaises pour la population française dans sa très grande majorité. Bon, ça ne veut pas dire qu'ailleurs, tout va bien.
Mais je ne comprends pas que nos politiques ne raisonnent pas comme nous, quand même. Je ne comprends pas, moi. Il faut qu'on m'explique, là. Enfin, que tous les politiques, bien sûr,
c'est
que non.
C'est l'impérialisme.
J'en reviens à la France insoumise. Je ne comprends pas. Je veux dire, Mélenchon, c'est quelqu'un d'intelligent, quand même. Enfin, moi, il me semble. Quels sont les intérêts de ces partis d'avoir ce genre de position? Je ne comprends pas, moi. Vraiment, je ne comprends pas. Ils devraient penser à nous, à la France.
Eh oui, et on se demande s'ils pensent à la France ou s'ils pensent à leurs intérêts, à se voir...
aux oligarches.
Oui, voilà. On ne va pas faire une émission sur la France insoumise. Il y a un positionnement de la France insoumise par rapport au Parti communiste ou à ce qu'il en reste. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, s'il y a un endroit très très petit, très minoritaire, où on se met à réfléchir un petit peu à la souveraineté nationale aujourd'hui, où on dit quelques mots, je ne fais pas d'illusion sur la capacité de Roussel et de ce qui reste du PC à faire, c'est le seul endroit. Et donc comme la France insoumise s'est constituée pour être anti-parti communiste, c'est tout à fait clair, c'est une gauche, ils veulent représenter
c'est
la gauche.
C'est pas des trotskistes
Si, bien sûr. Bien sûr, on est tout à fait dans des filiations traditionnelles. Donc en fait, ils ne peuvent pas, effectivement, ils sont là pour être anti-communistes principalement. Bon, alors, je ne veux pas m'étendre là-dessus, on pourrait faire, mais c'est pas très très intéressant. Alors, parlons d'endroits où il se passe des choses graves. Les élections présidentielles en Équateur. Le deuxième tour a eu lieu donc il y a 8 jours, le dernier dimanche, et elles se sont soldées par un résultat trafiqué à l'extrême, c'est-à-dire que le président sortant, le magnat de la banane, M. Noboa, a réussi à trafiquer les résultats, mais d'une façon odieuse. Alors, il y a du courant qui a été coupé, des bulletins perdus, des procès-verbaux trafiqués, enfin, tout y était pour faire arriver le président sortant à 55% des suffrages, alors que probablement il était à 45%. Et alors, la candidate battue ne reconnaît pas les résultats. Elle fait appel à la justice internationale, on espère que ça arrivera. Mais enfin, notez que donc, le candidat des États-Unis, pour faire simple, le patron mondial de la banane, M. Noboa, a volé un scrutin. Et donc, on continue dans l'Amérique latine pro-américaine telle qu'on la connaît. Il n'y a pas de changement là-dessus. Mais la capacité de résistance de la... Alors, elle est vivante, tant mieux. La candidate de gauche donc, a l'air forte et on peut espérer qu'il y aura une évolution. Autre personnalité de gauche, c'est encore une femme que je salue, c'est la présidente mexicaine.
Ouais.
La présidence mexicaine qui ne se jette pas aux pieds des États-Unis est en train de dire, mais attendez, on est un pays souverain et puis on a des intérêts à défendre, nous. Et d'abord, tout ce qu'on fait ici, si vous ne le laissez pas rentrer par votre frontière en la fermant, ben, ça vous manquera. Tant pis pour vous. Nous, on trouvera d'autres clients, vous inquiétez pas.
Mais elle a moins des œufs.
Voilà. Elle a une position très, très sereine. Et je la salue parce que elle fait un peu tâche dans le reste de l'Amérique latine et c'est très bien qu'elle soit arrivée à la présidence en ce moment-là. Et puis je vais m'arrêter un peu sur le fameux monsieur Bukele. Bukele, donc le président du Salvador, vous savez, qui s'est fait une publicité et qui est arrivé au pouvoir dans des conditions qu'on connaît, c'est-à-dire des élections où il a triomphé, mais où il a mis en place un régime extrêmement autoritaire qui fonctionne à coups de prison, à coups de torture, à coups d'enlèvement, etc. Bon. Par exemple, il considère que toute personne qui a un tatouage est un terroriste. Bon, donc, vous circulez dans la rue avec un tatouage.
Il y en a beaucoup en France.
Prison. Prison. Et il a mis en place le plus grand camp de concentration d'Amérique latine. 35 000 places. 35 000 places. Bon. Alors, on pourrait dire, c'est pour les Salvadoriens. Mais non. Parce que M. Trump, cherchant un endroit où envoyer les gens qui ne veulent plus, qui chassent, il a passé un accord avec ce M. Bukele. Et moyennant finance, M. Bukele reçoit tous les... Alors ça peut être des Chiliens, ça peut être des Argentins, etc. Enfin, tous les Latinos qui sont expulsés des États-Unis par Trump arrivent dans la chambre de torture de M. Bukele. Et M. Bukele se fait payer pour ce travail-là dont il est effectivement tout à fait capable. Bon. Alors c'est en train de s'enveniver avec M. Maduro. Parce que M. Maduro a appris... un peu par la bande, j'allais dire, que je crois 250 ou 300 Vénézuéliens chassés des États-Unis par Donald Trump étaient entre les mains de M. Bukele dans son camp de travail, dans son camp de concentration. Et là, il commence à faire mener campagne, « Mais qui vous êtes Et moi, je les veux. Les Vénézuéliens, je les veux chez moi. Je ne veux pas que vous leur fassiez la peau là où vous êtes. » Et donc, il est en train de faire un changement d'opinion dans l'Amérique latine en disant « Monsieur Bukele est un agent des États-Unis et c'est un monsieur très dangereux par ses méthodes ». Alors il faut savoir qu'en plus, il est hypocrite parce qu'il est passé, sa première élection, il a passé par un mouvement de gauche, il s'est recentré et puis finalement maintenant il est carrément à l'extrême droite et c'est ce que dit Monsieur Maduro. « Monsieur Bukele, vous êtes d'extrême droite, vous êtes un dangereux pro-nazi, vous utilisez exactement les mêmes techniques et Monsieur Trump se sert de vous pour ce genre d'opération. » Donc on reparlera peut-être de M. Bukele, alors dont je signale alors un peu la mort dans l'âme que ses parents étaient palestiniens. Enfin, ça ne veut rien.
C'est vrai.
Bon, tout peut arriver. Je ne veux pas reprocher ça à la Palestine. Mais c'était bien de le rappeler. Ensuite. Alors, oui, on devait parler. Alors, on peut parler un peu de la Syrie. Alors, où les affaires sont pas si faciles que ça. D'abord, bon, les crimes continuent. Mais il y a des tensions quand même dans le monde arabe parce qu'il était question d'inviter M. Al-Shaara au prochain sommet de la Ligue arabe. Et il y a des gens qui tordent un peu le nez quand même. Hein. Ouais. Les Égyptiens commencent à tordre un peu le nez et puis les Irakiens. Alors il faut savoir pourquoi l'Irak ? Parce que l'Irak connaît bien M. Al-Jolani Al-Shaara, c'est le même, parce que M. Al-Jolani Al-Shaara a été le leader d'Al-Qaïda en Irak, et qu'il a beaucoup de sang irakien sur les mains. Alors que le sommet...
Il faut l'appeler Joulani, pas Al-Shaara.
Voilà.
Non, mais c'est vrai.
Mais oui.
C'est Joulani.
Voilà. Alors que ce monsieur soit invité, alors le gouvernement irakien est un peu flottant là-dessus, mais enfin, ouais. Il commence à s'inquiéter en disant, mais est-ce que ce monsieur, on l'accepte ? Parce que je signale qu'il y a des mandats d'arrêt contre lui en Irak.
Hein. En Irak, oui.
Voilà.
Oui.
Et donc, alors...
Il a massacré le peuple.
Il a massacré le peuple. Al-Qaïda a failli prendre tout le pouvoir en Irak à l'époque.
C'est ça.
Avec la BDD. Édiction des États-Unis.
Daesh, bon, tout ça.
Voilà. Ouais. Donc, il y a un mauvais souvenir. Et donc, le climat dans la Ligue arabe n'est pas si favorable que ça. Bon, ça, c'est des évolutions politiques à moyen terme, disons. Bon.
Et en Irak, ils l'ont pas invité non plus.
Non. Mais ouais. Voilà, parce qu'il y a une vraie opposition.
Le voisinage, quoi, à part la Jordanie. Bon,
ben, la Jordanie, oui. Donc c'est bon à savoir. Donc M. Al-Jolani n'est pas populaire dans tous les pays arabes, et heureusement, parce que ça reste quand même un terroriste, tueur, sectaire, etc. Barbare par les méthodes utilisées.
Favorable à l'Arabie Saoudite, Qatar et les Émirats.
Voilà, et financé par eux-mêmes.
Par eux-mêmes, on
les connaît. Donc on retrouve les limites de cette Ligue arabe, où effectivement voisine des régimes tellement différents les uns des autres, et pour tous pas tellement sympathiques. Bon, donc... On en reparlera.
Je salue l'intervention du peuple marocain sur le bateau qu'ils ont reçu à Tanger.
Exact.
Et qui était rempli d'armes et des pièces d'échange pour les avions des combats israéliens.
Pour les F-35.
Salue ça.
Voilà. Alors ça, c'est une première. C'est une première au Maroc.
Oui, c'est déjà bien.
Alors il faut savoir que dans le détroit de Gibraltar, vous avez deux grands ports. Au nord, il y a le port d'Algeciras, ce qui est un port espagnol. Et de l'autre côté, il s'est créé, donc ces 20 dernières années à peu près, un grand port qui s'appelle Tanger Port,
ouais. Hein,
qui en fait est en train de faire concurrence même sévèrement au port espagnol, parce qu'il est un peu moins cher, sur les mêmes trafics. Et donc là, effectivement, pour la première fois, il y a une réaction du personnel portuaire marocain contre un navire transportant du matériel pour Israël. Bon. C'est un joli pied de nez pour le souverain marocain. Okay. C'est tant mieux, et je souhaite que ça se développe. À propos de manifestations, je signale aussi qu'il y a eu des manifestations en Espagne, parce qu'il y a dans le sud de l'Espagne une base américaine qui s'appelle la base de Rota, qui est assez près de la mer vers Cadix.
Ouais.
Alors, dans cette base américaine, qui est une grosse base où il y a tout le matériel en relais pour la Méditerranée et tout, et pour les bateaux américains, il y a eu des manifestations pour interdire aussi de charger du matériel américain venu de la base terrestre sur les bateaux qui étaient en rade. Donc, là aussi, on a un réveil du mouvement anti-impérialiste, anti-colonialiste.
Les manifestants, d'ailleurs, ont proclamé, enfin, ils ont crié haut et fort... que le Maroc coupe les relations avec l'État d'Israël.
Avec les sionistes. Ouais. Ouais, tout à fait.
Avec les sionistes, bien sûr.
Ouais. Donc là, on a des évolutions intéressantes. Alors, on a un peu de tristesse en France à constater que nous, on a une absence totale de manifestation sur ce genre de choses. Alors, on n'a pas de base américaine sur place. Bon, c'est l'avantage, ça c'est les suites du gaullisme, mais quand même, on pourrait un peu réagir parce que par ailleurs, l'alignement et la dépendance par rapport aux États-Unis est totale. Et total, alors on sait avec les Young American Leaders, les Bilderberg, enfin tout ça est bien bien entretenu, je ne rentre pas dans ce détail-là. Et puis on va parler un peu de ce qui se passe dans les négociations avec l'Iran.
Ouais, c'est très intéressant.
Voilà, ouais. Point très très important. Alors par rapport, alors, le premier point est un point diplomatique, c'est-à-dire qu'après le passage dans les deux chambres du Parlement russe, vous savez qu'il y a deux chambres, une chambre la Douma, puis la chambre qui s'appelle l'espèce de Sénat, le président Poutine a signé hier la définitive après l'accord donc des deux chambres, ouais, l'accord stratégique avec l'Iran.
Et très très,
voilà,
je ne sais pas comment l'exprimer, mais très très proche.
Oui, c'est
très...
oui, c'est un accord qui dit je n'aiderai c'est jamais quelqu'un qui te veut du mal. Ah. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire « je ne dépends pas de toi militairement, tu es grand, tu te défends toi-même, mais je ne ferai jamais rien qui nuise à tes intérêts propres ». Bon, c'est très très fort. C'est très très fort et ça maintient une autonomie stratégique réelle à l'Iran. Alors j'insiste, qu'est-ce que c'est que l'Iran ? L'Iran, c'est la Perse ancienne. Il faut savoir que l'Iran a toujours été différent de tout ce qui se passe autour de lui. La Perse n'a jamais été, d'abord elle n'est pas dans le monde arabe, elle n'a jamais été pro-turque, elle a toujours resté un îlot particulier avec une stratégie et une indépendance nationale, même si c'est du temps des rois Xerxès, Darius et tout.
Des siècles,
presque 1000 ans avant Jésus-Christ.
Oui, hein. Exact.
Hein, ouais. Jamais personne n'a contrôlé l'Iran en dehors des habitants
d'Alexandre le Grand.
Voilà, tout à fait. Ouais. Oui, Alexandre, il est passé à travers, puis ça s'est arrêté là. Ouais. Ça s'est arrêté. Bon, donc on en est à revenir sur la question des sanctions, ou plutôt de la politique nucléaire de l'État iranien.
Ouais, ça c'est...
Alors, j'en rappelle en gros les... Enfin,
ouais,
même pas en gros.
Il faut rappeler...
Le cadre, c'est dire l'Iran qui est signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Traité de non-prolifération de l'armement nucléaire, soyons précis. Et pour l'atome civil, c'est-à-dire la production d'électricité à partir de centrales nucléaires, et pour l'utilisation scientifique et technique des radioéléments, donc de la matière nucléaire, en médecine, en recherche scientifique, etc. Bon. Et il s'est doté d'une industrie qui lui permet de faire ça, de faire ses carburants et puis surtout tout ce matériel pour la recherche.
Et toutes les usines pharmaceutiques.
Voilà, ouais, exactement. Ouais. Donc il s'est doté de ça. Et il faut savoir que du temps de Obama, on s'est mis à leur chercher des difficultés puisque la consigne venant d'Israël et du clan sioniste, ils savent très bien, les sionistes, c'est pas le roi Abdallah ni même hélas la pauvre Égypte qui est de taille à faire front avec les sionistes. Donc il en reste effectivement, les Israéliens le savent, ils ont bien le seul adversaire régional qu'ils ont. Alors, ce n'est pas un adversaire qui leur a déclaré la guerre. C'est un adversaire qui a dit « Je suis chez moi et ce n'est pas vous qui ferez la politique à ma place. Hein. Je suis en Perse, je suis iranien, c'est tout, c'est comme ça. » Bon, ça, ils n'acceptent pas. Et puis, ils savent, et ce qui est vrai aussi, c'est que l'Iran a aidé des mouvements de résistance au sionisme, des mouvements palestiniens. Ça, c'est tout à fait clair. Et continuera à le faire. Alors, c'est moins facile aujourd'hui parce que la Syrie est dans l'état où elle est. Mais l'Iran ne s'est jamais caché d'aider les milices et les groupes professionnels. Les groupes armés.
Contre l'impérialisme et le sionisme.
Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, on en était là. C'est les parlements. Enfin, il y avait donc eu un accord qui avait été signé donc, par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne.
C'est à l'époque d'Obama. Hein.
Voilà, à l'époque d'Obama. Alors, je ne sais pas ce que l'Allemagne était venue faire là au milieu. Parce que,
Plus un.
Bon, au terme duquel les Iraniens confirmaient. Ils avaient cette politique donc, de nucléaire civil et de nucléaire scientifique et technique. Et puis, on s'arrêtait là. Et contre quoi, il y avait des sanctions.
Et d'ailleurs, ils faisaient le traitement limité à 3%, je crois.
L'enrichissement de l'uranium.
L'enrichissement, oui.
On en était là. Et puis, à un moment donné, ça n'a pas convenu aux États-Unis. Et donc, les États-Unis, un certain Donald G. Trump, premier mandat, a décidé de retirer sa signature de cet accord. Et donc, aujourd'hui, on est juridiquement dans le vide, puisqu'il y avait deux partenaires, il y en a un qui s'est retiré.
Et comment faire confiance à un État comme l'Amérique, bon, c'est incroyable. C'est un
vrai problème. Ouais. Alors, tout d'un coup, on se dit, ah, mon Dieu, les Iraniens, alors, c'est toujours la même technique, c'est-à-dire que les sionistes et Netanyahou hurlent en disant, attention, l'Iran est dangereux, etc., pour que Trump aille jusqu'au bout en disant, vous avez rompu l'accord, maintenant, il faut vraiment les achever, s'il faut le faire, faisons-le.
Parce c'est-à-dire, pour l'État sioniste, aucun pays arabe, même musulman, de posséder de l'arme nucléaire ou centrale, même centrale nucléaire. Exactement, c'est leur objectif.
Voilà. Alors en fait, les centrales, il y a deux centrales nucléaires en Iran qui sont des centrales mises en place par la Russie et contrôlées par la Russie au niveau des produits qui rentrent dedans et qui en sortent.
Ils savent tout,
tout le monde le sait. Alors, il faut savoir que l'Iran a adhéré à l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a fait des inspections, qui connaît les installations, qui est en capacité de dire ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien. Bon. Et il se trouve que les négociations reprennent sur la base toujours la même, en disant, nous, alors le régime iranien affirme, nous n'avons jamais changé de position, nous voulons pouvoir faire de l'électricité avec les centrales nucléaires et nous pouvons pouvoir utiliser les produits radioactifs dans des activités techniques et scientifiques. Bon, point. On n'en revient pas. On ne veut pas la bombe, on n'essaye même pas de l'avoir. Et là-dedans, on en est là. Il y a des discussions qui ont lieu et qui ont commencé, puis qui se poursuivent en Italie d'ailleurs, en ce moment. Oui. Et je voulais m'arrêter sur un personnage qui n'est pas très franc du collier. Et on va finir avec lui, parce que vraiment, il faut insister sur le personnage. Il reste 2 minutes. Alors, il s'agit de M. Rafael Mariano Grossi. Grossi, qui est un citoyen donc argentin, qui est le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, dite agence qui peut faire des visites avec ses inspecteurs en Iran, qui connaît les installations. Alors, ce monsieur devrait être un scientifique. Alors, il a une formation scientifique, et il devrait tenir un discours rigoureux de scientifique. C'est oui ou c'est non. Il y a des produits, il n'y a pas de produits. Il y a du nucléaire, enfin de l'uranium pouvant faire des bombes, ou il n'y en a pas. Et au lieu de tenir un discours scientifique, sérieux, d'expert international, c'est pour ça qu'il est payé, c'est pour ça qu'il a été embauché, il dit, alors je vous dis ces phrases parce que c'est un chef-d'œuvre d'hypocrisie. L'Iran n'est pas loin, entre guillemets, de disposer de la bombe atomique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire
ambigu.
C'est ambigu. Tu laisses super. Ouh là là, il faut qu'on arrête. Bon. Alors, bon, on refera le portrait de M. Rafael Mariano Grossi la semaine prochaine, mais c'est un faux jeton. Voilà.
Exactement. Hein? Il est acheté par l'Amérique.
Voilà, exactement. Il est acheté. Et donc, il sert. Et il a déjà fait ça. On en reparlera la semaine prochaine parce que le personnage mérite qu'on le critique un petit peu, parce qu'il fait un boulot pas propre, certainement très très bien payé, peut-être trop bien.
On en parlera, hein, parce que c'est pas terminé, on verra.
Non, pas du tout.
C'est vrai.
Mais je fais confiance à les Iraniens, je pense que les Iraniens sont assez costauds là-dessus. Merci.
Merci à tout le monde. Merci.